Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Par les temps qui courent, nous avons besoin de rêverie. Nous avons besoin de nonchalance, une forme d'évanescence. Vous savez, c'est ces brouillards automnales au travers desquels, perçoit un petit peu le soleil. Ce livre, le livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ça. C'est une rêverie, une forme d'évanescence, un rêve, un songe, mais qui réhabilite quelque chose qui est dans nos mémoires, mais qui semble bien lointaine. Pour nous parler de ce livre, et moi j'ai découvert un auteur, un écrivain, une femme qui parle avec son cœur, sa passion, une belle écriture. Je dirais une belle écriture classique, oui, mais élégante, raffiné, où chaque mot est important, où entre les lignes il faut sentir le sentiment, l'émotion. Elle est habitée par cette Babylone et ce réveil des passions. Bonjour Catherine David.
Eh bien bonjour, ça fait très plaisir d'entendre ça et j'espère que ce sera partagé par nos lecteurs.
Eh bien écoutez, il n'y a pas de raison, donc je disais Babylone, le réveil des passions aux éditions XO. Alors nous allons un petit peu parler de Catherine David, vous êtes professeur, vous êtes impliqué beaucoup dans différentes choses, mais on veut vous connaître un petit peu plus.
Alors me connaître un peu plus, c'est savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est... tout ce qui fait rêver, qui est roman d'aventure, parce que je suis à la fois joueuse.
Oui, oui, les jeux vidéo, par
oui,
exemple.
Les jeux vidéo, c'est ma passion. Et puis j'aime bien aussi les séries. Donc l'alliance des deux m'a donné envie de créer mon propre voyage dans le temps.
Oui. Et qui fait que nous nous retrouvons à Babylone.
Alors, oui.
Ce qui m'a étonnée avant de lire votre livre, c'est que j'ai fait des recherches sur les autres lectures qu'il pourrait y avoir sur Babylone. Je me rends compte que finalement, on a très peu écrit sur Babylone. Et là, il y a une forme de réhabilitation. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie Moi, j'ai senti comme un besoin aussi d'écrire les choses au travers de vos personnages. Alors, on va pas trop parler de l'intrigue, hein. On va tourner autour parce qu'il ne faut pas révéler les choses. Mais qu'est-ce qui vous a donné? Parce que moi, j'ai senti un besoin comme une évidence.
Oui, alors c'est tout à fait exact. Désolée, je ne sais pas si on entend ça.
Tout va bien.
Babylone, ça c'est... Oh, je cherchais une ville mythique qui me faisait rêver. Et puis comme j'ai enseigné l'édition, on parle beaucoup d'écriture.
Oui.
Et c'est vrai que Babylone, ça a été une des premières écritures au monde.
Oui.
Peut-être qu'il y en avait aussi en Égypte, etc. Mais Babylone, c'est vraiment ça. Et puis une civilisation extrêmement complexe. Et puis, c'est vrai ce que vous avez dit. On croit que c'est une ville mythique, alors qu'elle a réellement existé.
Et oui.
Alors, avec les jardins suspendus qui font rêver.
Oui.
Et puis, toute une organisation très, très sophistiquée, des œuvres d'art, des histoires mythiques extraordinaires. Enfin, une civilisation qu'il faut redécouvrir absolument, qui est tout à fait passionnante, qui en dit long sur l'humanité.
Alors, il faut préciser que c'est 6e siècle avant Jésus-Christ.
Oui.
Donc ça n'est pas hier. On s'aperçoit que c'est une société qui était élaborée, construite, instruite hein, aussi.
Oui.
Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste, je dirais matériellement parlant, peu de choses.
Ah. Voilà. Alors pourquoi on en parle peu c'est parce qu'on peut pas visiter des ruines comme on peut le faire pour d'autres civilisations.
Comme Pompéi, par exemple. Pompéi.
Comme c'est une civilisation avec des bâtisses, des bâtiments en argile, ça n'a pas résisté au temps.
Oui.
Voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'il reste peu de choses, mais aussi beaucoup de choses. Paradoxalement, ce sont les tablettes. Il existe des milliers et des milliers de tablettes qui sont toujours en cours de traduction.
D'accord.
Et donc, c'est passionnant parce qu'on peut encore découvrir des choses.
Mmh.
Et cette civilisation, non seulement a marqué par sa beauté, mais aussi par les mathématiques, par l'astrologie.
Mmh.
Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de choses passionnantes.
Oui, c'est pour ça que je disais une civilisation instruite et construite. Hein.
Il
y avait vraiment,
avec
un cadre administratif, enfin vraiment quelque chose de très concret, de très construit, de très puissant
dirais-je même.
Oui.
Alors, au travers de votre livre, on se balade entre roman, vérité historique, thriller. Et alors là, il y a toute une panoplie de choses qui fait qu'on on s'attache aux personnages, aux livres, entre les meurtres, les complots, bref, tout un arsenal de sentiments, de vérité, de mensonges. Les gens se déchirent, s'entre-déchirent. Alors, il y a des personnages, bien sûr, il y a cette jeune fille... Laïla, qui s'apprête à devenir scribe. Alors on en parlera, est-ce que vraiment elle est représentative de la condition des femmes à ce moment-là, mais tout va débuter en fait par la découverte de crimes abjects, et là évidemment va se dérouler tout un tas de choses que les auditeurs et auditrices de Ces deux ailes découvriront, mais cela va déclencher eh bien tout un tas de problèmes entre les différents personnages. Ça va être le réveil des passions.
Tout à fait. Tout à fait, d'autant plus que les démons, pour eux, c'est pas une dimension imaginaire. Ils croient réellement que les démons peuvent exister. C'est pourquoi ça peut être l'objet d'une manipulation.
Oui.
Parce que les gens, ils croient vraiment. C'est pas fantastique. Ils sont dans un monde où existent plein de dieux et plein de démons.
Alors...
Donc, oui. Allez-y.
Alors, et en plus, justement, pour parfaire votre propos, vous y avez mis un roi qui est malade, on va dire, une reine qui est assez manipulatrice, un général, alors là, le général Nungal aussi, c'est un personnage très important. Et alors, tous ces personnages sont leurs sentiments, enfin, je veux dire, leurs personnages, leur comportement, leurs défauts et leurs qualités sont d'autant plus décuplés par tous ces incidents, tous ces crimes qui s'y passent.
Voilà. Et donc, en plus, c'est une époque très, très étrange et très forte, dans la mesure où le roi étant malade, bien sûr, ça suscite les envies de lui succéder.
Les convoitises, bien sûr.
Sa femme est la fille de Nabucodonosor,
oui,
qui est le grand roi qui a régné 40 ans à Babylone. Mm-hmm. Et elle s'estime plus légitime que n'importe qui pour s'emparer du pouvoir, même si c'est à travers son fils. Mm. Donc là, il y a quelque chose de très fort et qui rappelle qu'elle est la fille de quelqu'un qui a compté énormément dans Babylone, très positivement. Hein.
Oui.
Et quant aux conditions de la femme, vous parliez de Laïla.
Oui.
Laïla, en fait, il y a eu quelques femmes scribes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut pas extrapoler en disant il y avait une condition de la femme revendicatrice et tout.
Bien
mais
sûr.
En revanche, elles avaient le droit d'hériter. Si elles se séparaient de leur mari, elles pouvaient reprendre leur dot. Elles pouvaient aussi faire un peu d'administration,
oui,
de terre, d'atelier. Donc, et puis c'est elles qui géraient réellement la maison.
Mmh.
Voilà. Donc, elles avaient un rôle très fort.
Alors, le rôle du scribe, pour rappeler ça à nos auditeurs, avait quand même, c'était un poste important, le scribe dans
ces... Très important, oui, vous avez raison. Alors, c'est un poste important parce qu'il est à la fois celui qui transmet tous les mythes et tout la mémoire de la civilisation et qui note tout ce qui se passe au point de vue conquête. Et comme on sait que c'est une civilisation qui est tournée vers les combats et les conquêtes, il est à la fois le témoin de l'histoire présente et il transmet tout ce qui a eu lieu dans le passé. Donc c'est vraiment essentiel.
Mmh.
Et puis, il les met sur les tablettes, ça permet de nourrir les bibliothèques.
Oui.
Il fait aussi des recherches.
Mmh. D'accord.
C'est vraiment un personnage clé.
Alors, est-ce que il écrit pour les autres, il transmet? C'est une forme de transmission orale également, le scribe?
Non, vraiment
non.
Écrite. Et d'ailleurs, lui-même enseigne à des jeunes élèves chez lui l'écriture.
D'accord.
Donc voilà, il y a vraiment... Et puis en général, ce sont des lignées.
Mmh.
Il y a une transmission comme ça, de génération en génération. Et puis en plus, c'est lui qui va faire l'école à quelques enfants choisis pour apprendre à écrire.
Mmh. Alors Laïla, pour elle, c'est une force d'émancipation. Hein, le fait d'être scribe, elle ne tend que vers cela. J'ai trouvé que c'était une jeune fille très moderne, ce qui m'a amené à penser, toujours ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est une société construite, instruite, parce que il y a l'envie d'aller plus loin et cette force d'émancipation chez les femmes et notamment cette jeune fille qui va jouer aussi un rôle très important dans votre histoire, bien évidemment.
Ah, tout à fait. Et puis on verra que peut-être si le tome 2 bientôt, qu'elle elle était très jeune, donc de l'assurance, de la maturité. C'est intéressant. Ça n'est pas qu'une amoureuse, c'est aussi quelqu'un qui a une véritable personnalité.
Complètement, oui, tout à fait.
Voilà, et ça, c'est intéressant et c'est authentique.
Oui. Et alors, donc, tous ces crimes abjects qui ont lieu, alors on se pose la question, rite ou pas rite, rite religieux, rite simplement crime gratuit, les questions vont bon train. Quelle est la place de la croyance dans cette cité de Babylone, de la religion?
Alors, la place est extrêmement importante, c'est omniprésent. C'est-à-dire, je ne vais pas faire d'acte dans ma journée sans penser mon rapport au Dieu. Le rapport au Dieu, il s'agit de les chouchouter, de les calmer afin qu'ils n'interfèrent pas fâcheusement dans ma vie. Donc, on va être à travers les temples, à travers les hommages, on va faire en sorte que les dieux soient contents. On va les nourrir, on va leur donner des choses, etc. Et puis moi, je tâcherai de tirer mon épingle du jeu comme être humain, en sachant que je suis sous le regard des dieux.
D'accord.
Alors, mais il n'y a pas de jugement, et puis il y a surtout aussi une envie de plaisir, dans la mesure où là, on sait que le temps est compté.
Oui.
Et qu'on est sous le regard des dieux. Donc on essaye de vivre le mieux possible notre existence terrestre.
Alors il y a un autre personnage aussi qui est important, il y en a plein d'autres, mais on ne peut pas parler de tout si on laisse au lecteur de ces deux ailes et de délivrer vous de découvrir cela. Mais il y a le général aussi qui est un personnage que j'ai trouvé intéressant, assez tonitruant, qui a une véritable identité. Alors on va pas tout dévoiler non plus, mais il m'a inspiré un peu d'effroi, ce général.
Ah bon, pourquoi?
Je ne sais pas, j'ai trouvé le personnage un peu inquiétant. J'ai trouvé un peu ambigu.
Peut-être ombrageux un peu, par certains côtés.
Oui.
C'est vrai, c'est peut-être sa passion, son envie de réussir sa vie, de marquer même peut-être l'histoire, qui fait ce personnage un peu ambigu, c'est vrai. Mais c'est un personnage très intéressant, je trouve très babylonien.
Oui, sans doute.
On connaît grâce à mon amie historienne.
Oui.
Alors, on a essayé d'être vraiment au plus proche de ce qu'on connaissait, des réactions à travers les courriers, etc., qu'on a vu traduits sur Babylone.
D'accord. Eh bien, écoutez, ce que l'on va traduire, j'espère, avec une petite pause musicale, un petit peu de gaieté, et puis nous nous retrouverons tout de suite après.
Rivers of Bye.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Catherine David pour son roman sur Réveil Babylone, le réveil des passions aux éditions XO. Alors moi ce qui m'intéresse aussi, ce qui va sans doute intéresser aussi nos auditrices et auditeurs, c'est la construction de ce livre, vos recherches, le travail, le temps que ça vous a demandé, avec qui avez-vous travaillé, qui avez-vous rencontré, de quels conseils vous êtes-vous appuyé. Voilà, on voudrait tout savoir sur la construction de ce livre. Sur l'histoire de ce livre, la genèse.
Alors, sur la genèse du livre, on a mis plusieurs années.
Oui.
Et d'une façon extrêmement intensive, 2 ans. Et je dois rendre hommage à notre éditeur qui a été une sorte d'aiguillon, manager, etc.
Oui.
Pour nous pousser justement à approfondir les détails historiques. Or, j'ai une amie historienne qui est docteur en histoire et qui est passionnée par l'Orient.
Oui.
Et réellement, elle s'est investie aussi, elle a fait le voyage et elle y était, quoi. Donc, on communiquait en permanence. Elle me disait, là, il y a quelque chose, il y a un quartier intéressant, il va y avoir des artisans, un forgeron, là, voilà, etc. Donc, vraiment, je suis entrée dans la ville avec elle. Et j'ai eu envie... de prendre par la main les lecteurs pour qu'ils visitent Babylone. C'est
oui.
quand même fascinant.
Oui.
Voilà.
Alors, à la fin de
avec votre... que des détails authentiques.
Ah oui, ça c'est important de le préciser. D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, il y a quelques petites choses hein, sur Babylone.
Alors, oui, pour permettre aux lecteurs de se retrouver.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut situer géographiquement, dites-nous, situez-nous un petit peu sur la planète Babylone.
Eh bien, ça correspond globalement à l'Irak.
Oui.
Mais la Mésopotamie s'étend beaucoup plus.
Oui.
C'est pour ça qu'on a mis des cartes dans le livre,
oui.
pour permettre aux lecteurs de se retrouver facilement sans avoir à faire des recherches.
Mm-hmm.
Donc là, tout de suite, il est de plein pied dans la région. Voilà.
D'accord.
Babylone se trouve plutôt vers le sud.
D'accord. Alors, vous me parliez tout à l'heure de ces... des choses inscrites sur ces plaques. Elles ont été retrouvées quand? Comment sont-elles lisibles? Comment sont-elles détectables? Comment peut-on travailler avec? Est-ce que ça a permis de découvrir sur Babylone?
Alors, on a trouvé des tablettes qui ont résisté
tablette,
au
voilà,
temps,
cherchez le mot tablette.
Lors des fouilles,
oui.
un peu partout, que ce soit Our, Nidive, Babylone, etc. Et en fait, il y a des spécialistes qui ont réussi à déchiffrer cette écriture, à la comprendre.
Oui.
Et comme c'est très long, il reste encore des milliers de tablettes à traduire.
Ah oui.
Mais
ah oui.
c'est une source extraordinaire
oui.
de détails. Ça peut être le récit d'une chasse, d'un banquet,
mm-hmm.
La nomenclature d'une bibliothèque. Il y a vraiment de tout.
Et mm-hmm.
beaucoup aussi les courriers entre les fonctionnaires, entre le roi et les gouverneurs.
Enfin, mm-hmm.
ça apprend réellement comment fonctionnait
cette société.
La Mésopotamie, Babylone
oui.
en particulier.
Oui. Est-ce que vous diriez que de ces tablettes, en apprenant toutes ces choses, ça peut être une meilleure compréhension du monde aujourd'hui, en tout cas de cette partie du monde?
Ah oui, ça c'est certain. Et je pense qu'il y a encore à découvrir, c'est ça qui est passionnant. Mon amie historienne guettait s'il y avait une nouvelle traduction, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne. Du reste, on a été voir la porte d'Istar à Berlin,
oui.
au musée Pergame, qui permet de voir un tout petit bout de la magnificence de Babylone.
Mmh. D'accord. Alors justement, on se demande, mais comment se fait-il qu'une telle cité instruite, construite, administrée, moderne d'une certaine façon, avec toute cette magnificence, comment... Alors vous me direz, il y a d'autres civilisations, bien évidemment, qui ont disparu, mais celle-là, elle avait une telle marque, une telle enclave dans le monde, dans son inscription
oui,
monde, comment ça a pu disparaître?
Alors vous savez, c'est comme toutes les civilisations... Elles ont plusieurs vagues, après elles ont un sommet, et après
ouais.
elles sont
ouais.
convoitées par d'autres autour. Et là, je vous révèle, ça va être Cyrus et les Perses
ouais.
qui vont marquer la fin de Babylone. Quoi qu'il ne va pas du tout, c'est quelqu'un d'exceptionnel, il ne va pas du tout casser complètement la civilisation, mais
ouais.
c'est la fin de Babylone en tant que leader.
Mm-hmm. En fait, on s'aperçoit que dans toutes les grandes civilisations dont fait partie Babylone, Ça s'est toujours terminé par une catastrophe d'une façon générale. Pompéi, Babylone, vous le disiez, par Cyrus et les Perses. C'est quand même incroyable. Comme si il y avait une forme de, comme si ça dérangeait que des gens puissent avoir une forme de magnificence, quelque chose de grandiose. Il faut absolument qu'on se les approprie. Alors après, Pompéi, c'est la nature et ça, c'est autre chose. Mais d'une façon générale, on s'aperçoit que les hommes, il leur faut toujours plus et que quand quelque chose brille, eh bien, il faut se l'approprier. Même si c'est au détriment de sa beauté et d'aller jusqu'à l'ultime, jusqu'à ce que ça disparaisse. C'est ça qui m'a fascinée aussi dans Babylone.
Là, en fait, ça a été absorbé en quelque sorte.
Ouais.
Mais moi, je pense que ça a été absorbé aussi de la faute des Babyloniens. Moi, j'ai l'impression que quand il y a une civilisation qui est à son sommet, peut-être qu'on ne se méfie plus, peut-être qu'on est trop... Comment dire, on s'écoute trop, on est trop bien, on est plus assez vigilant peut-être.
Oui, peut-être. Oui.
On s'occupe de batailles internes, voilà. Mm-hmm. Et que peut-être on perd parfois de vue les choses les plus importantes. Peut-être.
Oui,
hein,
peut-être.
Non, pas non plus.
Oui, non, mais bien sûr, bien sûr.
Mais ce qui est passionnant dans cette civilisation, effectivement, c'est ce côté passion. Mais oui. Pas seulement passion amoureuse, passion politique.
Passion politique, tout à fait.
Passion
oui.
du verbe, et tout ça, voilà. Ça,
complètement.
C'est vraiment extraordinaire.
Oui. D'ailleurs, la passion du verbe, elle est très bien retranscrite dans votre livre. Parce que je disais, c'est une écriture élégante avec un vocabulaire recherché et très riche. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, moi qui aime les lettres et les livres, c'est vrai que franchement, je me suis régalée, si je puis dire. Alors, votre livre, c'est aussi un thriller, c'est une enquête policière.
Oui.
Hein,
ah oui.
Je dirais, est vraiment extraordinaire, qui vous fait drescher les cheveux sur la tête. Alors, vous voulez laisser le livre de côté, mais vous avez envie de savoir. Comment s'est construite votre enquête? Comment vous vous y êtes prise?
Je dirais en plusieurs fois, c'est-à-dire que on a su ce qui allait se passer, mais sans aller jusqu'au bout.
Oui.
Et c'est par l'écriture, par les réunions, qu'on a été de plus en plus loin et qu'on a écouté et entendu les personnages.
Oui.
Qu'on a vu leur noirceur et voilà. On a presque découvert en même temps que l'écriture. En fait,
oui.
C'est ça qui rend l'écriture passionnant.
Oui.
C'est-à-dire que quand on écrit, enfin, en ce qui me concerne,
oui.
c'est comme un film.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, voilà, on ajoute une scène, on voit le personnage qui est là, ben, on ne savait pas qu'il allait faire ça.
Oui.
Voilà.
Oui.
Je pense que si peut-être vous avez ressenti une certaine passion dans l'écriture, c'est parce qu'on l'éprouve, en fait.
Oui. Mais votre livre aussi, au-delà du thriller, de la saga historique, de la vérité rétablie, c'est un voyage aussi. C'est un voyage dans le temps que l'on ramène à une réalité, à aujourd'hui, mais il y a une forme de leçon. Alors, pas la leçon que vous donnez, mais en disant, voilà, on est fragile, on n'est pas éternel, et quelles que soient les choses les plus construites, les plus grandes, attention, de toute façon, on est fragile.
Oui, ça c'est tout à fait juste, bien sûr. Aucune civilisation n'est éternelle. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit malheureusement, c'est comme ça, il y a des risques, en fait.
Oui, c'est vrai. Alors, vous disiez, vos personnages sont arrivés au fur et à mesure de l'écriture. Certains se sont imposés, se sont plantés dans le décor, en s'imposant, disant, voilà, moi je m'appelle Laïla, moi je suis le général, moi je suis le roi malade, moi je suis la reine manipulatrice, je veux exister.
Alors, oui, sauf qu'il y a des personnages réellement historiques.
Oui.
Le roi et son fils ont existé.
Oui.
Et leur histoire, elle est telle, pas dans la civilité, bien entendu, mais dans ce qui leur arrive, les événements sont historiques.
Mm-hmm.
Ils étaient bien mariés à la fille de Nabucodonosor,
tout à fait,
c'est
oui.
historique.
Mm-hmm.
Qu'elle soit, nous, on a supposé que comme lui était une sorte d'intrigant, elle pouvait avoir cette attitude vis-à-vis de lui.
Mm-hmm.
Donc après, on en a déduit des réactions psychologiques. Et se sont imposés, comme vous l'avez dit très bien, par exemple le personnage de Nungal, qui est un personnage qui nous plaisait également, qui me plaisait, et que je trouvais fascinant à suivre, parce que c'est un parcours vraiment babylonien, qui est quand même une terre de conquête, faut dire.
Oui.
Ils ne peuvent pas, ils ne veulent tout le temps que répondre leur civilisation.
Mmh.
Donc ce sont des conquérants. Il ne faut pas l'oublier, donc il est bien le symbole d'un Babylonien.
Mmh. Alors justement, vous parlez souvent de cette entité babylonienne. Il y a vraiment une entité babylonienne quelque part qui subsiste dans les écritures de la tablette et qu'on pourrait accommoder avec quoi ou avec qui aujourd'hui?
C'est-à-dire, vous voulez faire un rapprochement?
Oui, un rapprochement, une sorte, quelque chose de perpendiculaire, cette entité babylonienne, ce caractère babylonien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une résonance dans ce monde d'aujourd'hui?
Alors là, écoutez, là, vous me posez une question extrêmement difficile. J'ai voyagé dans le temps et dans l'Antiquité. Oui. Je ne sais pas si je suis habilitée à voyager au XXIe siècle de la même façon. Voilà. Donc, je ne me prononcerai pas. C'est trop, votre question est trop difficile.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire d'un babylonien, au travers de vos connaissances et de vos recherches, que c'était des tempéraments forts, combatifs, et en même temps, comment dirais-je, vivant?
Oui, alors là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve ce type de héros dans toutes les civilisations, oui, qui sont des civilisations complexes, élaborées. Oui. On retrouve ce type humain.
Un peu comme chez les pharaons en Égypte.
Oui, on retrouve partout où on trouve des hommes forts, parce que moi, je crois que l'humanité est une. Donc, dans toutes, oui, les civilisations, oui, voilà... on retrouve à chaque fois ce type d'hommes ou, mmh, de femmes, mmh, qui sont véritablement des êtres forts, mmh, et qui sont de plein pied dans leur culture, dans leur civilisation, oui, avec les ambitions de l'époque.
Oui. Vous vous rendez compte que quand vous dites que la fille, c'est la fille de Nabucodonosor, vous vous rendez compte un petit peu, c'est le rêve, c'est l'imaginaire absolu.
Oui. Mais il faut dire que c'est un roi qui a quand même régné 40 ans,
et oui,
qui a véritablement été l'inspirateur de toute l'architecture, mmh, donc qui est aussi pour les lois. Mmh. Là, il y avait des lois déjà élaborées, mmh, c'est-à-dire qu'on essayait de condamner en proportion de la faute, ce qui est vraiment, par rapport au début de l'humanité, déjà un gros progrès. Mmh. Vous voyez, vraiment, ouais, c'était une civilisation remarquable,
ouais, oui,
extrêmement pensée. Mmh.
Mais on le
c'est
ressent.
Qui peut nous parler, donc.
Oui, on le ressent dans votre livre. Hein, c'est très riche, c'est très fourni. On rappelle, il y a des vérités, il y a des points historiques, il y a un thriller. Enfin, il y a tout ce qui fait qu'on a envie de découvrir Babylone. Il y a ces cartes, hein, pour emmener le lecteur vers un voyage, pour situer un petit peu les choses. C'est complet, c'est bien fait. C'est franchement, c'est un livre qui mérite de vivre et d'être lu et relu. Alors, vous nous parliez d'un tome 2, avec une Ayla là, qui est jeune et qui vient d'inscrire. Donc, vous avez des projets pour nos personnages. Donc, Babylone, oui, on n'en aura jamais fini. Il y a toujours à dire sur Babylone.
Toujours à dire. Oh, mais même beaucoup, beaucoup de choses encore qu'on n'a pas montrées.
Oui.
Énormément, énormément d'autres rues, d'autres artisans, d'autres complots, évidemment.
Bien sûr.
Et puis, nos personnages qui grandissent.
Bien sûr.
Et qui s'affirment. Et puis, vous n'avez pas parlé d'une chose, si je peux me permettre d'introduire un petit sujet léger, c'est la cuisine m'a beaucoup fascinée.
La cuisine, c'est vrai, j'en ai pas parlé, voilà. Pourtant je suis gourmande.
Ah voilà, et tout ce que nous avons dit sur la cuisine est tout à fait authentique. Hein.
D'accord.
C'est des traductions de tablettes,
oui,
très sérieusement, et comme moi-même je suis passionnée par tout ce qui est ingrédients, cuisine et tout, j'ai voulu montrer... la sophistication.
C'est très riche. Ah oui, c'est étonnant, cette richesse et cette sophistication de la cuisine. On pourrait les grands chefs pourraient en tirer des leçons et s'inspirer de ces recettes, pour certains.
Ah, vous savez qu'il y a des chercheurs, d'ailleurs, qui, lors de leur symposium, je ne sais pas,
oui,
ont essayé de faire des dîners babyloniens.
Ah oui, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, c'est un livre à offrir ou à s'offrir. Babylone, le réveil des passions aux éditions Ixo par Catherine David. Ça a été un véritable plaisir de lire ce livre et de vous recevoir. La richesse de l'écriture et puis votre humanité et cette passion que l'on retrouve en vous écoutant et en lisant. C'est avec plaisir. Je vous souhaite une belle fête de fin d'année, de belles fêtes de fin d'année, je l'espère, et de vous retrouver à jour. Quant à moi, eh bien, les émissions vont s'interrompre quelque temps. J'espère vous retrouver dans quelques semaines. Mais n'hésitez pas à écouter Délivrez-vous, ces deux ailes, parce qu'il y aura évidemment des rediffusions pour vos émissions préférées. Merci Catherine David et à très bientôt, j'espère.
Je vous remercie.
Merci, au revoir.